sur Radio B. Résonance, Alain Goudard, bonjour et bienvenue à tous. Résonance, un grand amphithéâtre, à ciel ouvert, à l'écoute des nouveaux vents de la création. Résonance vous a conduit à travers une série de trois émissions réalisées en mars et avril dernier dans le département de l'Ardèche pour aller à la rencontre d'initiatives artistiques et culturelles qui cherchent à donner la parole par le biais de l'art, de la musique, de l'écriture à toute une population que l'on n'entend pas beaucoup dans l'espace public. Des paroles fortes, pertinentes, des récits d'hommes et de femmes engagés dans la durée, convaincus que la culture peut constituer un espace essentiel de rencontre, de reconnaissance et d'apprentissage de l'autre, d'autonomie de pensée et d'agir pour donner corps à un commun, une société. Pour compléter cette première approche des actions artistiques menées au sein de ce territoire, nous vous proposons aujourd'hui d'aller à la rencontre de ce qui se passe au sein du centre hospitalier Sainte-Marie à Privas. Et notre guide sera tout au long de cette émission, Juliette Péjon-Charlet, responsable du projet culturel développé au sein de cet hôpital. Mais tout d'abord, voici notre rubrique « Paroles d'auteur, paroles de compositeur » avec Josie Josserand, et aujourd'hui, les paroles qui nous sont proposées sont de Peter Brook.
Être mobile. Ne pas se figer, fuir les certitudes, jouir de chaque instant. Ce qui compte, ce n'est pas l'arrivée, mais le voyage. La relation saine est celle de la coexistence. Toute prouesse crée une distance, là où nous voulons, nous, créer l'ouverture, la participation. Il y a en chacun un homme enfoui. Être prêt veut dire être entraîné et être ouvert. L'acquis est l'instinct, la règle est la liberté. Ce n'est pas le respect de la règle qui fait l'objet du travail, mais la lutte avec la règle et tout ce qu'elle produit comme ordre ou engendre comme rébellion. La règle, une fois brisée par accident ou par nécessité, ni la représentation dans son ensemble, ni le partenaire ne doivent jamais s'interrompre, mais essayer d'intégrer l'erreur afin de pouvoir poursuivre. Brook ne cherche pas la perfection, mais la fluidité. Il n'aime pas revenir, il préfère toujours continuer. Pour chercher, il faut sortir du contexte, car sinon ses critères de même que ses valeurs deviennent les vôtres. Chercher exige le départ. Dans l'art, l'homme cherche ce qui fait le mieux résonner.
Résonance sur Radio B, émission spéciale Ardèche, volet numéro 4, le mois, entre parenthèses avec un S, en folie, art et psychiatrie, à l'hôpital Sainte-Marie de Privas. Et j'ai le plaisir d'accueillir maintenant dans notre émission Juliette Pégeon-Charlet. Bonjour.
Oui, bonjour.
Ravie de vous avoir à nouveau dans notre émission. Et puis, je crois qu'en même temps, vous êtes accompagnée autour de ce micro à l'hôpital Sainte-Marie.
Oui, alors on est en force là, on est six. Donc il y a trois patients qui sont très investis sur les projets culturels et deux personnes du journal qui animent le journal L'Écho de la Réhab, qui sont psychologues avec moi et qui ont participé aussi à différents projets culturels. Donc on est au téléphone, mais on va se faire passer le combiné, peut-être chacun autour déjà pour se présenter.
Absolument, donc, oui, je vous en prie, voilà. Allez-y.
Alors je vous passe Nathalie.
Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Bienvenue.
Je m'appelle Nathalie, merci. Donc moi, je souffre d'un trouble bipolaire, d'un trouble de l'humeur. Donc je suis bipolaire et mon humeur fluctue. Voilà.
Très bien. Elle sera bonne au cours de cette émission.
Bonjour.
Bonjour.
Moi, c'est Agnès de Perrière. Je suis psychologue au service de réhabilitation. Mmh. Et sinon, je participe au journal L'Écho de la Réhab.
Et bienvenue alors.
Oui, bonjour Alain.
Bonjour.
Je vous passe ma voisine.
Alors, je parle pour Ingrid qui est intimidée, mais
très
qui
bien.
Est là et qui participe beaucoup au journal. Voilà.
Bon, bah très bien.
Ensuite, c'est Christelle.
Bonjour Christelle, bienvenue.
Bonjour.
Merci d'être
voilà,
là.
Donc
et de...
Je participe au journal depuis quelques mois.
Oui.
Voilà, et donc je vous passe... Guillaume.
Très bien.
Bonjour Alain.
Bonjour Guillaume.
Content de te joindre à nouveau.
De même.
Ouais, et donc Guillaume Georges, je suis psychologue, je travaille avec Agnès dans le service de réhabilitation psychosociale.
Voilà, on
est
encore...
En lien étroit avec Juliette autour de tous les projets culturels qu'il peut y avoir ici.
Voilà, donc on va rappeler, Juliette, que vous êtes responsable culturelle justement dans ce centre hospitalier à Sainte-Marie-de-Privas. Et peut-être, je me disais, on pourrait aussi commencer comme ça, parce que pour certains de nos auditeurs, référents culturels, responsables de développement culturel, c'est encore des choses nouvelles qu'on n'entend pas souvent dans un hôpital. Tout cas, pas toujours encore, même si c'est... On pourrait peut-être, je ne sais pas si vous partagerez cet avis, mais peut-être c'est quelque chose un peu en voie de développement depuis quelques années. En tout cas, on voit émerger plusieurs postes au sein de ces établissements. Pour votre part, c'est la première fois que vous assumez ce type de responsabilité dans ce type d'établissement également ?
Alors, c'est la première fois que je suis seule au service culturel, mais j'ai travaillé au Vinatier, à la ferme de Vinatier en 2006-7-8, où j'étais médiatrice, mais on était une équipe à l'époque de 7. Voilà, là, pour Sainte-Marie, donc je suis seule sur ce poste-là, mais c'est déjà une chance, je trouve, qu'un hôpital ait un temps dédié sur les projets culturels. L'idée, c'est d'être vraiment sur une fonction d'ouverture de l'hôpital, en fait. Puis d'autant plus, je trouve ça a du sens en psychiatrie, où la prise en charge en santé mentale évolue vite actuellement, et du coup c'est aussi comment le projet culturel peut accompagner ces évolutions des institutions, des gens qui la font vivre, que ce soit les patients, les soignants, mais aussi les salariés, voilà, administratifs. Et c'est vrai que c'est à la fois un lieu où on peut penser, débattre et s'interroger sur ce qu'on vit tous ensemble dans ce beau bateau ivre qu'est la psychiatrie d'aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois mon travail. Et auparavant, j'ai été plutôt dans le médico-social. J'ai passé 8 ans à l'Association des paralysés de France. Voilà.
Donc une expérience,
à peu près la même chose,
voilà, une expérience forte quand même déjà de ces publics, des enjeux aussi que la culture véhicule justement au travers de ces initiatives. Alors peut-être aussi encore peut-être de votre point de vue, comme ça à la fois d'observatrice mais aussi très impliquée dans l'action, la culture finalement, les pratiques artistiques quelque part viennent aussi bousculer les organisations, les fonctionnements, quel que soit l'établissement finalement, hein. Un établissement de santé à ses règles, à ses modalités d'organisation qui lui sont propres. Hein. Et finalement, quelque part aussi, ces pratiques, elles amènent un peu de, si je peux dire, un peu de désordre. Elles incitent quelquefois des mises en mouvement. Elles ne sont pas forcément simples à mettre en œuvre à certains moments donnés. Alors, je dirais, on se trouve quelquefois un petit peu ballotté. Est-ce que les équipes, justement, peut-être avec s'ils ont des parts, mais quand ils se trouvent livrés dans la pratique directe, dans l'action directe,
actes, tout ça génère un certain nombre de paramètres qu'ils ne soupçonnaient peut-être pas toujours non plus. Alors, comment vous... Et j'imagine que vous êtes à l'interface, justement, un petit peu de toutes ces réactions et de toutes ces mobilités. Et en même temps, ça remet en mouvement l'hôpital dans ses fonctions, dans ses objectifs et dans ses relations aussi avec les patients.
Oui, oui, c'est tout à fait ça. On est tout le temps sur une ambivalence créatrice, en fait.
Oui, c'est ça.
Voilà. Alors, à la fois, c'est vrai qu'en psychiatrie, on est beaucoup sur une normalisation des émotions de par les publics qu'on accueille, parce qu'on va souvent, enfin, en tout cas, je parle des équipes soignantes, oui. de la filière infirmière, vont voilà, plutôt essayer de calmer les émotions un peu trop exacerbées parfois de nos patients. Et c'est vrai que quand on fait venir des artistes dans l'hôpital, ben, on est juste sur un projet très émotionnel qui va venir donner un grand coup de pied dans la fourmilière. Donc des fois, quand on voit arriver, on prend peur, mais en même temps, c'est là toute la richesse de ces rencontres-là, c'est qu'il faut dépasser les fonctions des uns et des autres pour co-construire et créer ensemble. Et c'est ça qui va créer du vivant et quelque chose de très très intéressant et d'innovant, en fait, par rapport à ce qu'on peut avoir quand la culture ne rentre pas, ou en tout cas moins dans les murs. Et Guillaume m'a écrit un petit mot sur...
Très bien.
sinon, je vous le passe.
Oui, mais on peut faire comme ça, hein, de toute façon, quand chacun le souhaite... peut intervenir. Très bien, Guillaume, je vous en prie, votre réaction justement par rapport à ce que nous échangeons avec Juliette.
C'est le mot désordre qui me faisait un petit peu tilter. Je disais oui, nos désirs sont désordres. Hein. Il y a désordre en un seul mot, bien sûr.
Oui, oui.
Il y a quelque chose aussi où pour ramener de la vie et du vivant, il y a besoin de ramener du désordre comme ça. Alors,
absolument.
On n'est pas là non plus. Ce n'est pas uniquement le but de tout mettre par terre et
tout
d'être dans la destruction. Bien au contraire,
tout à fait.
On garde toujours un processus créatif, créateur, et puis dans l'intérêt de tous, hein, qu'on soit patient ou soignant, l'idée c'est que ça puisse bénéficier à tout le monde. Mais c'est vrai que ça peut parfois amener à déranger certaines habitudes. Hein. Dans le cadre du journal L'Écho de la Réhab, je crois que c'est un petit peu ça qu'on vient questionner aussi, c'est ne pas rester dans quelque chose de trop normé, et plutôt aller rechercher du côté là où nous-mêmes, quelque part, on est dérangé.
Et là, vous sentez aussi également que la direction d'établissement, de par justement le journal, de par rapport à l'action que Juliette mène, vous sentez aussi progressivement une adhésion, ou il y a déjà une adhésion très forte de la direction ou de ces différents cadres pour s'engager fortement, accompagner fortement les dimensions que vous mettez à jour respectivement?
Je crois que déjà que le fait que Juliette ait un poste ici, c'est signe que la direction de l'hôpital va dans le sens de ce projet. Hein, et oui, moi je sens plutôt une forme de bienveillance, hein, qui est partagée par l'ensemble de l'hôpital. Il y a des moments de friction de temps en temps, mais je crois que globalement le projet est réellement soutenu. Donc ça c'est positif, hein, le fait qu'on puisse continuer d'écrire aussi librement dans le journal, c'est preuve de ce soutien-là.
Tout à fait. Et est-ce que vous sentez peut-être encore sur des éléments d'observation et d'analyse, de regard finalement dans cette présence artistique au sein de l'hôpital Sainte-Marie, que là aussi l'extérieur, de peut-être par certains projets, de par aussi les liens avec les gens à l'extérieur de l'établissement, que petit à petit, quel regard ça provoque? Est-ce que ça change les choses dans le rapport que pouvait avoir installé la population et les patients et l'établissement lui-même? Est-ce que le fait qu'il y ait ces éléments culturels, ça change quelque chose?
C'est une sacrée
question.
Ingrid me fait oui de la tête. Hein. C'est sûr que c'est un projet sur lequel on travaille en permanence. Et moi, peut-être que je suis un petit peu trop dedans pour
pouvoir avoir le regard.
Pour avoir vraiment ce regard-là, parce que on est constamment en train de se battre justement pour ouvrir le plus possible les portes de la psychiatrie. Mais je vois qu'on me fait des signes. Est-ce que je vais te passer Nathalie peut-être?
Oui, si Nathalie veut réagir, absolument, bien entendu.
Je te la passe.
Merci, avec plaisir.
Merci Guillaume. En tant que soignée ou usager de la psychiatrie,
tout à fait.
Je trouve que la culture dans un hôpital psychiatrique est très importante et même primordiale pour les soignés. Elle nous permet d'oublier pour un instant ou plusieurs nos problèmes ou nos différentes pathologies. et de vivre certains instants de bonheur. Mmh. La plupart des personnes extérieures à l'hôpital pensent que nous n'avons pas de cerveau et que nous restons toute la journée sur des lits, alors que c'est pas vrai. Il y a des gens, il y a des personnes qui sont cultivées et qui réfléchissent avec l'aide de thérapeutes ou de soignants sur leur vie. Donc le journal de la réhabilitation mis en place par Madame Perrière et, oui. et Monsieur Jor, je vous passe Madame Perrière qui va vous en parler.
Pas de souci.
Oui, bon, je suis un peu surprise, mais je savais pas, mais je m'attendais pas à ce qu'on passe le combiné aussi rapidement.
C'est une émission où la parole est libre et circule rapidement, donc
ouais,
pas de souci. Je vous
Parce
en prie.
Que, alors moi, j'étais en train de penser, là, Nathalie oui. disait qu'en fait, voilà ce qu'elle pouvait trouver dans le journal,
ouais.
et puis qu'est-ce que ça changeait en fait hein,
C'est
pour
ça.
Elle. Et moi, je m'interrogeais, je me disais, mais moi, en fait, qu'est-ce que ça change
Qu'est-ce que ça change
pour
aussi pour vous oui.
Culture et santé ou le journal. Et, enfin, en tout cas, ça permet vraiment de s'interroger sur la place qu'on occupe et le travail qu'on fait.
C'est ça.
Alors, je ne dis pas qu'on ne le fait pas par ailleurs, hein, mais là, c'est
Bien
une
sûr.
Occasion supplémentaire, et puis en tout cas, de le faire autrement aussi. Et d'être aussi... d'être engagé aussi, voilà, c'est pas qu'au niveau de la pensée que ça se passe, c'est aussi au niveau de, ben, j'allais dire du corps, puisqu'en fait on partage des choses ensemble, bon, on a fait du théâtre aussi, voilà, donc effectivement ça interroge vraiment des questions fondamentales en fait, hein, pour chacun, hein.
Et je crois que c'est ça. Alors, vous avez peut-être pas entendu tout à l'heure parce qu'on n'était pas tout à fait en ligne
oui.
au tout début de l'émission, mais on a eu une petite rubrique qui nous est chère, parole d'auteur et parole de compositeur, dite aujourd'hui par Josy Josserand. Et c'était Peter Brook qui était un petit peu notre ce metteur en scène bien connu, qui était un petit peu notre guide. Enfin, en tout cas, c'était quelques-unes de ses phrases. Et pour faire un petit rebond avec ce que vous venez de dire, et il disait à un moment donné, il y a en chacun un homme enfoui.
Ouais,
et que là, il
ouais,
y a à découvrir. Ouais. Et je trouve que ça fait assez écho avec ce qu'il
ouais.
disait. Et puis, peut-être encore cette petite phrase que nous avons citée tout à l'heure. Dans l'art, l'homme cherche ce qui le fait le mieux raisonner. Et peut-être quand on entend ce que vous avez évoqué les uns et les autres, on est aussi peut-être un peu dans cette idée. Alors, peut-être une première petite pause musicale. Je vous la fais entendre et puis on s'en parle après.
D'accord.
Thank you.
Résonance sur Radio B, émission spéciale Ardèche 4e volet, le mois en folie, art et psychiatrie à l'hôpital Sainte-Marie de Privas. Alors là, c'était un extrait d'une œuvre du compositeur Georges Apergis de la Wolfli Cantata. Et c'est le troisième mouvement, une partie de ce troisième mouvement que nous venons d'entendre, intitulé Vitriol pour six solistes vocaux, interprété par les Neues Vokalisten de Stuttgart sous la direction de musicale de Marcus Kraed. Alors si j'ai souhaité un peu vous faire aussi découvrir, à vous qui êtes autour de la table et du micro à l'hôpital Sainte-Marie, c'est que à travers ce que nous venons d'entendre, c'est aussi découvrir finalement à travers cette œuvre l'aventure d'une rencontre entre deux hommes, deux artistes, qui chacun à leur manière ont développé une expression tout à fait singulière, particulière, particulière, l'un par le biais du dessin, de l'organisation géométrique, d'icônes de symboles, de textes signifiants, ou aussi de vocables non signifiants. Et là, en la matière, il s'agit d'Adolf Wolfli, alors qui est très connu dans le domaine de l'art brut. Hein, c'est quelqu'un qui a vécu de 1864 à 1930, et c'est un homme qui a essentiellement produit son œuvre entièrement dans le cadre d'un asile, encouragé par son psychiatre dans un premier cas de reconnaissance du potentiel non seulement thérapeutique, mais pleinement artistique de la production des schizophrènes. Et il a développé des dizaines et des dizaines de dessins tous les jours. Il y avait une production énorme. Quand je dis rencontre aussi, le compositeur Georges Apergis, à un moment donné, alors lui est né en 1945 à Athènes, a été marqué aussi, il est marqué aussi par sa façon très personnelle, d'ailleurs on l'a entendu, on vient de l'entendre, de traiter les voix et de traiter aussi les textes. Hein. Et là, la Wolfli Cantata, finalement, elle est née de la rencontre de ce compositeur, Georges Apergis, avec les tableaux et les textes d'Adolf Wolfli, bernois, résident permanent d'asile et icône de l'art brut hein, du début du XXe siècle. Et de là, naît une œuvre conséquente, la Wolfli Cantata. Et du coup, c'est vraiment, finalement, la rencontre qu'il a aussi est le moteur d'une relation, d'un échange, d'une écriture. Comment lui, Georges Apergis, s'est senti complètement attiré aussi par toutes les facettes de cet homme, de son œuvre aussi, est née finalement une création qui part aussi de tout un travail. Quand on évoquait un tout petit peu tout à l'heure, est-ce que l'ordinaire, du coup, les liaisons qu'il pouvait y avoir, voilà, je me disais que c'était un petit clin d'œil aussi qu'on pouvait avoir au travers d'un travail artistique en dehors, voilà, avec des ponts et des passerelles jetées à travers le temps, mais qui faisait lien avec quelqu'un qui a pu développer une action artistique au sein d'un asile. Et puis, quelques années plus tard, quelqu'un s'empare de tout ça et fait encore création à partir de ça.
Ouais, c'est très riche.
Voilà, et c'est vrai que Adolf Wolfli, on sait que nombreux musiciens, alors on verra si on aura le temps dans la suite de notre entretien de diffuser une toute petite partie, il écrit aussi de la musique, a attiré de nombreux musiciens, des Américains, des minimalistes, enfin, voilà, on voit qu'à un moment donné, un artiste comme celui-ci, ayant passé toutes ses années de créativité dans un asile, a suscité un intérêt incroyable, notamment chez les musiciens en tout cas. Voilà.
D'accord.
Ben,
merci.
Ben voilà, hein, c'est une manière de faire un petit point d'orgue. Alors, il se passe beaucoup de choses, Juliette, bien sûr, dans l'hôpital. Et puis, et c'est un petit peu cela dont on va essayer de parler de manière plus ample avec les différents invités qui sont aussi à vos côtés. Cette préparation aussi de cet événement, le mois en folie, qui art et psychiatrie, qui lui, bien sûr, on a encore un peu de temps, mais va se dérouler entre le 18 novembre, du 18 novembre au 17 décembre 2016. Mais peut-être on peut évoquer comment peut-être une idée de cet ordre s'est mise en place, et puis parce que c'est très riche, hein, on pourra en parler de quelques événements, il va s'y passer beaucoup de choses dans de nombreux domaines, et comment petit à petit, Juliette, cette idée en tout cas de faire un événement de cet ordre sur un mois a pris forme au sein de l'hôpital.
Tout à l'heure, tu parlais du regard et des personnes extérieures, et en fait, c'est venu d'une rencontre aussi avec la directrice de la médiathèque de Privas, qui est venue me trouver, qui m'a dit, tu sais, je crois qu'on a un petit peu les mêmes personnes qui se baladent dans l'hôpital et en ville et dans la médiathèque, et puis il y a des gens qui se mélangent pas, il y a les personnes hospitalisées, et puis les autres, ben, ils s'interrogent beaucoup. Mmh. Et donc, c'est elle, en fait, qui a amené une réflexion sur cet extérieur hospitalier qui se questionne sur qu'est-ce que c'est la psychiatrie. Il faut savoir que c'est quand même très particulier comme ville Privas parce que l'hôpital est en plein centre-ville.
Effectivement.
Et c'est une petite bourgade de 8000 et quelques habitants. Donc l'hôpital a vraiment une place importante en termes de nombre de personnes hospitalisées, de salariés. Voilà, enfin, c'est un employeur important aussi sur la communauté de communes et même le département, je dirais. Donc voilà, il y a une vraie identité Sainte-Marie, on va dire, et que ce soit chez les salariés ou chez les patients.
Chez les patients.
Et en ville, il y a la préfecture aussi, donc il y a beaucoup de personnes qui viennent de loin d'ailleurs pour un an, deux ans, trois ans. Et finalement, ces populations ne se rencontrent pas vraiment. Donc l'idée, c'était de créer la rencontre et puis que les choses se posent un peu sur la table de la ville, sur la table municipale. En parlant de la psychiatrie, quoi.
Bien sûr, bien sûr.
Ça, voilà, c'est... donc on est vraiment...
C'est une belle idée, en tout cas, du coup, et ça veut dire aussi que déjà, quand on évoquait les liens, quand on évoquait aussi les regards, eh bien, effectivement, une directrice de médiathèque, du coup, elle aussi sent tout l'intérêt et cette volonté de faire que chacun de vos espaces puisse être ce mobile, je dirais, d'imaginer des rencontres possibles et de faire croiser et se rencontrer ces différents publics qui s'interrogent vis-à-vis d'eux-mêmes, finalement.
Enfin, je crois qu'il y a vraiment la question de la porosité puis de la parole, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, on a vu que la parole soit libre et qu'on puisse discuter les uns avec les autres, parce qu'on se croise finalement dans les petites rues de Prima, mais c'est difficile d'aller au-delà. Et voilà, et c'est vrai que quand on a une structure culturelle comme ça qui franchit le pas de l'hôpital, forcément, nous, on est très partant sur ce projet-là. Et donc, l'entrée sera quand même très littéraire sur le projet.
Oui, c'est ce que j'ai pu voir, effectivement.
Voilà. Mais c'est vrai qu'autour, tous les autres partenaires culturels de Culture et Santé ont répondu présent. Et du coup, on a un projet assez polyvalent, polymorphe.
Oui, complètement.
qui va aller toucher les arts plastiques,
le cinéma.
Le théâtre, le cinéma. Enfin, voilà, donc c'est très intéressant, quoi. Et pour la ville, et pour nous. Et pour les patients, je pense, pour toute l'équipe, en fait. Ouais.
Et du coup, j'imagine qu'il a fallu, et que vous êtes encore dans ces phases-là, créer une espèce d'équipe, aussi préparer un événement aussi comme celui-là. Comment, du coup, une fois que l'idée a été émise, comment les choses se sont mises en travail?
Alors, il y a plusieurs petits groupes de travail, on va dire. En fait, au départ, on a plutôt réuni les porteurs de projets dans chaque structure, donc du théâtre, de la galerie d'art contemporain, de la médiathèque. Après, on a un petit noyau dur, nous, dans l'hôpital de la commission culture et santé, qui est constitué de soignants, artistes. Enfin, voilà, on est à peu près 25. Mais disons que sur les 25, on en a 5 ou 6... qui sont très investis sur les projets culturels. Et on s'est réunis, mais pas tant que ça, tous ensemble, en fait. Après, on a tricoté les uns avec les autres.
C'est ça.
Pour trouver des projets un peu à la carte aussi, qui correspondaient aux structures culturelles, à nous, à l'hôpital, ce qu'on pouvait mettre en place. Et puis, à ce qui collait aussi à nos projets.
C'est ça aussi, également.
Le premier événement, c'est vraiment lié à un atelier d'écriture qui a eu lieu ici, déjà en 2014, suivi d'un atelier de création de fiction radiophonique en 2015. Et du coup, ça nous semblait. Et donc, on coédite avec les éditions Kalima un livre de poésie, un livre CD de poésie. Et ça nous semblait assez juste, du coup, de le sortir à la médiathèque de la ville, de l'inaugurer là-bas. Mais bien sûr, avec l'équipe d'artistes et d'écrivains qui ont participé aux ateliers.
C'est ça. Voilà. Et là, on voit qu'il y a toute une richesse, d'auteurs, de poètes, de slameurs aussi à certains moments donnés qui vont être là, qui vont porter. Je pense aussi à tout le travail de Françoise Sourd, aussi comédienne, qui a eu ce travail avec les patients et les soignants. Et là aussi, il y a un spectacle aussi qui va aboutir aussi de Françoise Sourd aussi en contrepoint également.
Alors c'est vrai que sur Françoise Sourd, merci de la citer, parce que elle est comédienne dans la compagnie L'Art de Noix, qui est la compagnie du théâtre de Privas.
Tout à fait.
Et ça fait peut-être maintenant 3-4 années qu'elle intervient ici, mais c'est surtout vraiment un des piliers du projet culturel dans l'hôpital. Elle est vraiment très soutenante, très aidante. Bon, déjà, chaque année, elle intervient en résidence sur 3-4 semaines pour monter un spectacle avec les patients. Là, cette année, on a fait un projet... autour du réel et de l'imaginaire, avec tout un décor sur les portes de Magritte et tout ça. Et le spectacle a été joué au théâtre de Privas en février. On a quand même eu 100 personnes qui sont venues les voir jouer.
Oui, c'est formidable.
Donc, c'était vraiment un très beau moment. Puis le théâtre joue bien le jeu. Et c'est vrai que Françoise, là, on est vraiment dans les clous, je trouve, des projets culture et santé. C'est-à-dire qu'elle, dans son travail d'artiste, elle résonne avec la psychiatrie, les questions autour de la folie et de la maladie. Et du coup, elle a créé un spectacle qui s'appelle Mamuse, où elle compare un petit peu l'inspiration artistique avec la schizophrénie. Et c'est d'une finesse, c'est un spectacle très exigeant aussi au niveau du texte, avec beaucoup de références.
Ouais.
Voilà. Mais ça, elle a pu le faire parce qu'elle a mené des ateliers auprès des patients pendant 3 ou 4 années ici. Je ne sais pas, Christelle, si tu veux en dire un mot. Christelle y a participé
Cette
année sur le projet de l'atelier théâtre avec Françoise. Je vous passe, Christelle.
Très bien, avec plaisir. Alors, vos retours par rapport à cette participation à cet atelier, Christelle?
Oui, le théâtre, l'atelier théâtre a été très enrichissant pour tout le monde. Ça a été un moment où on a pu s'exprimer, où on a pu libérer des choses de soi. On a pu, on n'a plus transmettre des émotions, on n'a plus... On a pu guérir un petit peu de tout ce qu'on porte, sur tout le poids qu'on peut porter parfois quand on est hospitalisé.
Ça, c'était des moments importants, donc, et forts, alors.
Oui. L'atelier théâtre qui s'est déroulé sur 3 semaines à peu près, et puis le spectacle à la fin des 3 semaines, ça a été des moments vraiment enrichissants et très forts, oui.
Là, vous avez pu participer à la totalité, finalement, du stage et aussi du spectacle ?
Oui, voilà, oui.
Et là, vous avez porté... peut-être combien étiez-vous, justement, dans cet atelier ?
On était à peu près entre 10 et 15 personnes, voilà.
Et chacun a pu porter à la fois des textes que vous aviez éventuellement écrits ou des textes qui vous étaient proposés par rapport au sujet
Alors, Françoise Source s'est inspirée de certaines phrases écrites dans l'écho de la Réhab.
D'accord.
Elle s'est inspirée aussi de personnalités qui ont parlé de l'imagination, de l'imaginaire. Voilà, parce que c'était le thème.
Mmh.
Voilà, et c'était un beau moment à partager et on en garde un très bon souvenir.
Donc du coup, ça va être un moment important de... Là, je vais citer la date, même si on aura l'occasion, je pense, avec Juliette, de se rappeler, de l'inviter dans une autre émission pour évoquer ce temps fort. Mais ce sera le 18 novembre 2016 à la médiathèque de Privas où Françoise Sourd présentera donc le spectacle M'amuse, voilà, dont on évoquait un petit peu les ateliers aussi qui ont concouru à faire que ce spectacle existe. Donc avec Christelle. Je voyais aussi, Juliette, qu'il va y avoir, dans le cadre aussi de la médiathèque, plusieurs tables rondes aussi également avec différentes invités, différentes thématiques. Qui seront mises en place également. Et notamment le journal de l'écho de la Réhab, là aussi, va être partie prenante également.
Oui, alors c'était la question de comment écrire la folie, en fait. Et l'idée autour de cette table ronde, c'était de réunir à la fois des ce qu'on appelle des récits témoignages, donc de personnes qui ont sorti juste un roman ou deux, mais en tout cas qui sont vraiment des témoins de ce qu'ils ont vécu, que ce soit sur la schizophrénie ou là le burn-out.
Le burn-out.
Voilà. Et on voulait aussi valoriser deux auteurs un peu plus confirmés, on va dire, au niveau littéraire. Donc il y aura Tatiana Harfel qui a fait un projet qui s'appelle Les Inconfions, qui est d'ailleurs un projet qui a été fait au Vinatier.
D'accord.
C'est vraiment un livre magnifique où, en fait, ils ont retravaillé à la fois sur le vécu des patients, des personnels soignants et sur l'esthétique des anciens services désaffectés qu'on a tous dans nos hôpitaux psychiatriques. Et ils l'ont revu avec de la poésie. Enfin, voilà. Et donc, elle viendra parler de ce projet-là. Et puis, pour le deuxième auteur, on aimerait bien, mais on n'a encore pas la confirmation, que ce soit Olivier Bourdeau qui a sorti son premier livre, là, En attendant Beaujongle, qui est un livre extraordinaire qui parle très bien de la folie, mais d'une façon peut-être plus légère, plus poétique.
C'est ça.
Et voilà, et ça contrebalance peut-être un peu plus le côté documentaire avec les témoignages. Voilà. Et puis on a un de nos patients, Frédéric Nantier aussi, qui a écrit un livre, il écrit aussi dans le journal L'écho de la Réhab, Frédéric,
voilà.
Qui s'appelle La coupe des esprits, où il parle très très bien aussi de ce qui lui arrive quand il entend des voix, etc. Enfin, il a un très bon recul aussi sur sa maladie. Nathalie, je vous passe Nathalie, je crois qu'elle me fait un petit signe.
Absolument. Nathalie, allez-y, je vous en prie.
Je m'excuse pour tout à l'heure, j'étais un peu stressée.
Pas de soucis.
Je suis pas trop habituée de la radio. Mais bon, pour moi, c'est assez important
bien sûr.
De dire certaines choses. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quelques années, j'ai joué dans le cadre de la compagnie L'Art de Noix,
oui.
Sur la scène du théâtre de Privas, ce qui n'était pas rien, avec un comédien professionnel qui est Didier Bernard. Mmh. Et j'en garde un excellent souvenir.
Ben oui,
donc,
c'est
important. Il y a énormément de choses qui se passent et qui se sont passées au niveau culture et santé. Et c'est vrai que avec l'arrivée du journal de la Réhab, ça a permis et ça permet de déstigmatiser la psychiatrie. Et une ouverture sur vivre l'extérieur. Ce journal est distribué par moi et par d'autres sur la ville. Et il est attendu par certains élus ou médecins ou personnel administratif. Et d'autre part, il y a une ouverture sur l'extérieur. Je crois que c'est le premier jeudi du mois, non ? Donc, toutes les personnes de la ville ou extérieures à la ville sont les bienvenues de 14h30 à 16h30, donc à la médiathèque de Privas pour échanger, discuter avec nous. On invite tous les retraités, les personnes ayant du temps libre, enfin donc qui sont les bienvenus. Plus on sera nombreux et mieux le SMILBIC avancera. Voilà, je vous repasse Juliette.
Oui, et on peut inviter nos auditeurs à les podcaster, donc en se rendant soit sur le site de Résonance Contemporaine ou celui de Radio B, pour retrouver cette émission que nous avions réalisée il y a au mois de mars dernier, justement sur le journal de la Réhab. Et je suis d'accord avec vous, le Schmilblick, quand il est là, et il y avait une ambiance extraordinaire avec tous ceux et toutes celles qui participent à la rédaction et à l'imagination et à la mise en forme de ce journal. Donc oui, tout à fait, je souscris.
Et est-ce que, alors Christophe, qui est un des écrivains aussi du journal, oui, a écrit un texte sur l'émission
question
que nous avons fait écouter au sein de le texte. Voilà. Je l'ai lu. Ouais.
Ah bah volontiers, volontiers.
Ouais. Alors, donc, merci Radio B de votre compréhension intime et une parole. Chute à la chorale, une minute de soleil en silence, traverse la musique douce, de valeur pour le public et les échanges. Donc voilà pour le premier texte.
Ah, superbe.
Et le deuxième, donc c'était suite à l'écoute de l'émission qu'on a faite tous ensemble ici. Hein.
Oui, très bien.
Voilà, on reçoit son émission, parlementée, indique la Radio B, les voix des commentaires, anime les émissions au droit de la parole. Et le son arrive dans le geste de l'émission, message des mots, top modèle, inspire la parole collective, Quasimodo et régional, par le micro à l'antenne. Voilà, donc c'est vraiment Christophe, son écriture un peu surréaliste qu'on aime beaucoup.
Mais, et on apprécie, voilà. Je pense que nos auditeurs apprécieront également, et c'est fort sympathique d'avoir sa manière justement d'évoquer ses ressentis suite à l'émission et à ce moment partagé aussi avec cette belle équipe du journal de la Réhab. On est preneur. J'ai vu aussi, Juliette, que le cinéma sera aussi également présent aussi et que c'est l'objet là aussi d'une collaboration, notamment peut-être avec le festival d'Ardèche, Afrique solidaire, et puis en lien avec le documentaire de l'USAS aussi également.
Voilà, donc en fait, on a une de nos artistes phares aussi là sur l'hôpital Sainte-Marie, qui s'appelle Myriam Cluzet, qui a également participé à la fondation de la Galerie d'art contemporain qui est en dessous du théâtre de Privas, qui organise ce festival chaque année dans le cadre de l'association Ardèche Afrique Solidaire. Et il y a ce film magnifique de Joris Lachaise qui s'appelle « Ce qu'il reste de la folie » sur la psychiatrie à Dakar, au Sénégal. Et on s'est dit que ce serait vraiment intéressant de le diffuser à la fois dans le cadre du festival de l'association Ardèche Afrique Solidaire et du Mois en Folie, avec une petite table ronde, mais très sympathique, enfin je veux dire, pas avec rien d'officiel, mais en tout cas une discussion, voilà, derrière la projection du film, avec un ou deux psychiatres de chez nous et un consultant du handicap international sur ces questions-là de la santé mentale à l'étranger. Voilà, donc ça c'est... Mais c'est toujours pareil, c'est des questions de rencontre, voilà, Mireille, voilà, bien sûr, a vu ce film et ça nous semblait vraiment pertinent de le diffuser ici, même si on n'est encore pas sur des questions vraiment d'interculturalité ou d'ethnopsychiatrie dans le projet culturel. Enfin, c'était pas du tout à l'ordre du jour, mais ça, c'est un peu venu tout seul et je trouve que ça a vraiment du sens aussi d'aborder ces questions-là. Ouais. Voilà.
Et puis en complément, on peut noter aussi qu'il y a des envies d'exposition aussi, hein, qui vont être aussi présentes également à certains moments donnés.
Ouais. Tu parles de l'expo avec l'artiste Bruno Elisabeth.
C'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Hein.
Du coup, oui, on va l'accueillir très bientôt, pendant un mois à l'hôpital. Donc ça, c'est une grande première.
Ça, c'est une grande première, ça.
Ouais, c'est une grande première. C'est pas très simple, là, pour le coup. C'est vrai, on parle pas de la partie opérationnelle du projet culturel, mais c'est pas toujours très, très simple. Et en même temps, c'est très drainant de se dire qu'on va avoir un artiste qui est là 5 jours sur 7 avec nous au quotidien à l'hôpital et pas juste 2 heures le temps d'un atelier, quoi.
C'est ça. Et c'est une autre présence et c'est une autre relation qui s'établit avec lui, avec l'œuvre, avec aussi ce que font aussi les patients également dans ces moments-là, hein.
Oui, et puis alors là, c'est aussi une proposition un petit peu décalée parce qu'il est plus sur une entrée, une accroche au niveau du personnel hospitalier, moins des patients, donc c'était pas forcément non plus évident dans la culture du projet culturel à Sainte-Marie de le faire accepter, mais c'est aussi l'idée que l'hôpital change beaucoup, on a des personnels soignants qui vont partir à la retraite, on a, enfin, je dirais presque un tiers des personnels soignants qui d'ici 2 ans seront à la retraite et qui ont fait 40 ans de psychiatrie ici à Sainte-Marie et qui ont vraiment des choses extraordinaires à transmettre et à raconter. Et on a aussi un lieu qui va être structuré au niveau de l'architecture, des services qui vont fermer, d'autres réouvrir, etc. Et donc, Bruno Elisabeth, l'artiste, travaille sur ces questions de lien entre mémoire, récit et lieu. Donc, ça ne pouvait pas tomber mieux.
Effectivement.
Voilà.
Donc ça va être un beau travail et puis qui, je pense, là aussi va encore faire d'autres types de liens. Et puis effectivement, le fait qu'il s'intéresse au personnel, finalement, aux professionnels, ça va être encore une autre manière de voir comment la culture, effectivement, vient, bien sûr, pour les patients, mais concerne tout le monde, finalement, dans l'établissement. Et que là, il y a quelque chose de... On retravaille en commun, finalement, au travers de cette présence. Bien sûr, le lieu en tant que tel, comme tu le disais, est important sur la cité, mais n'empêche que peut-être que tous ces liens culturels donnent encore une autre consistance, une autre réalité finalement à ce commun.
Oui, non, mais c'est vraiment ça. Et puis ça va faire partie d'une exposition collective. Donc ça, c'est intéressant pour nous aussi. C'est-à-dire que la Galerie d'Art Contemporain voulait travailler sur Priva, justement, sur prendre la mesure de Priva. Et du coup, l'hôpital, de par sa place dans la cité, etc. Enfin, en tout cas, il semblait à la responsable de la galerie que c'était évident qu'il fallait qu'il y ait un travail sur l'hôpital. Mais c'est pas non plus que l'hôpital. C'est-à-dire que le travail de Bruno Elisabeth va venir s'intégrer dans 2 autres démarches artistiques qui seront aussi menées avec des publics. Donc quelque chose de très participatif, mais ça sera avec les écoles, les centres sociaux, enfin voilà, avec d'autres, en tout cas d'autres publics. Donc on parle aussi d'une culture commune ardéchoise, de Priva, de la ville d'ici. Ouais. Et ça, c'est vraiment intéressant pour nous aussi, que ça ne soit pas un focus que hospitalier, quoi.
Ça, je crois que c'est effectivement extrêmement important. Donc, Juliette, on arrive bientôt au terme de notre émission. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on reviendra en temps voulu faire, un focus très important, justement sur ce mois qui se déroulera, je le rappelle pour vous, chers auditeurs, de 18 novembre au 17 décembre 2016, il y a encore le temps avec ce mois en folie art et psychiatrie, mais qui sera un événement à ne pas manquer absolument. Alors on se retrouve tout de suite après, nous écoutons, puisque régulièrement nous accueillons la rubrique de Gérard Bonnefond. À tout de suite.
À tout de suite.
Je vais vous parler de l'organisation au XIXe siècle en Italie de concerts et de classes musicales dans 2 asiles. Puis nous irons en Angleterre observer les effets de la musique en milieu hospitalier. Dans l'Union médicale en 1860, Alexandre Brière de Boismont, médecin, personnalité conservatrice et fort peu sympathique, puisqu'il voulut interner les communards au motif des destructions lors de la Commune de Paris, relate ses visites dans 2 asiles italiens où la pratique musicale est intégrée dans les soins donnés aux aliénés. En 1829, dans l'asile d'Aversa, à proximité de Bologne, dans le salon de conversation, il assiste à la prestation musicale de 2 internés. L'un touchait du piano et l'autre pinçait de la guitare. Je reconnus que ces exécutants ne manquaient pas d'une certaine habileté. L'un d'eux était monomaniaque, l'autre imbécile, et cependant, il s'accordait très bien. Sans doute il y avait du charlatanisme dans cette exposition, mais l'idée réalisée plus tard n'en était pas moins là en germe. Et j'ai la conviction que le duo d'Aversa, qui fit du bruit, a été le point de départ des classes de musique organisées dans les asiles et des concerts qui y sont donnés. Malgré un propos désobligeant, l'auteur convient qu'il est possible d'engager l'éducation musicale dans les asiles pour le plus grand bénéfice des internés. En 1859, il visite l'asile de la Cenavra, proche de Milan. Il observe avec intérêt la prestation musicale conduite par le chef d'orchestre, qui est aussi le surveillant principal de l'asile. Au premier coup de baguette du maître, tous les yeux cessèrent leur mouvement désordonné pour se fixer sur les notes. Et un son parfaitement modulé, plein d'énergie, de force et d'harmonie retentit dans la salle, produit par la réunion de 14 instruments, 5 flûtes, 5 trombones et 4 cors à pistons. Deux grands morceaux furent joués avec un entrain et un accord qui eussent valu des applaudissements à des musiciens raisonnables. Dans le même établissement, 12 femmes et 2 infirmières travaillent un répertoire vocal. Le concert commença. C'était un beau chœur d'un opéra italien. Dès les premières intonations de cette langue, si bien faite pour le chant et pour tous les sentiments généreux de l'âme humaine, je me sentis ému. Ces voix se mariaient admirablement. Elles avaient de la fraîcheur, de l'étendue, quelque chose de sympathique. Les diverses tonalités se détachaient sans rompre l'accord, et lorsqu'à l'ensemble succédaient les parties à 2, 3, 4 voix, l'expression musicale, parfaitement nuancée, faisait sentir que chaque individualité avait recouvré, pour ce moment, toute la puissance de son moi. L'auteur est impressionné par la qualité des prestations et il ne dissimule pas son émotion. Il retire les enseignements suivants. Au point de vue thérapeutique, la musique n'est pas un agent puissant, mais elle a quelquefois guéri. Elle charme les loisirs de ceux qui l'ont cultivée. Elle retarde parfois les progrès du mal. Elle peut devenir la cause de nouvelles jouissances pour ceux qui en avaient le goût, sans avoir été dans la possibilité de l'apprendre. L'asile devient un lieu où il est possible d'apprendre la musique et de donner des concerts. La vie devient plus satisfaisante et les effets thérapeutiques sont réels, tout en sachant que de telles pratiques musicales ne concernent qu'une minorité de malades. Ces initiatives dues au personnel soignant, médecins et surveillants, montrent la volonté de donner un contenu à la vie dans l'asile. Allons maintenant en Angleterre, à la découverte de pratiques musicales à l'hôpital. En 1893, les annales médico-psychologiques présentaient l'usage directement thérapeutique de la musique à l'hôpital. Les expériences entreprises ont déjà fourni des résultats intéressants. Un des plus notables a été de faire régner le silence dans les salles de chirurgie soumises à l'action musicale et de procurer aux malades les plus agités un sommeil réparateur. À Helensburg, un comité de dames infirmières s'est constitué pour faire tous les jours de la musique vocale et instrumentale aux opérés. Il a été constaté que la température de ces patients baissait notablement et que leur souffrance était manifestement allégée. Même résultat à l'hôpital de Bolton. L'instrument qui paraît exercer l'action musicale la plus calmante est le violon. En beaucoup de cas d'insomnie, on obtient des effets excellents d'une simple boîte à musique, mise en jeu soit par un mouvement d'horlogerie, soit par un moteur électrique. Si fantastiques que puissent paraître ces faits et les conclusions du docteur Blackman, on doit actuellement prévoir pour les musiciens sans emploi un débouché nouveau, qui sera celui de thérapeutes spéciaux allant à domicile donner des séances anesthésiques auprès du lit de douleur des malades. La chose est déjà sortie à Londres du domaine de l'hypothèse et sans doute elle entrera bientôt dans les mœurs du continent. En Angleterre, les pratiques musicales en service hospitalier annoncent des méthodes qui perdurent puisqu'aujourd'hui en France, à l'hôpital, des musiciens viennent au chevet des malades. Bonne journée et à bientôt.
Résonance sur Radio B, émission spéciale Ardèche, volet numéro 4, le mois en folie, art et psychiatrie à l'hôpital Sainte-Marie de Privas. Et avec Gérard Bonnefond, nous revisitons l'histoire finalement des pratiques artistiques au travers du 17e, 18e ou 19e siècle. Et donc à chaque fois, il nous fait une petite présence un petit peu de ce parcours, puisqu'il écrit différents ouvrages autour de tout ça. Mais c'est intéressant parce que on voit qu'il s'y passait beaucoup de choses et qu'il y avait déjà énormément de choses qui s'essayaient, qui essayaient de s'imaginer. Et voilà, on avançait peut-être aussi avec des fois des tâtonnements, hein, on le sent bien. Mais bon, on essayait de faire et on voyait qu'il y a plein d'initiatives, de concerts et autres qui étaient déjà très existantes. Finalement, on revisite des choses, on s'aperçoit finalement. Mais c'est ça qui est bien.
Ouais. Mais c'est bien, hein, ça nous donne des références à nous, c'est super.
C'est pour ça qu'on intègre cette rubrique à cette émission, parce que je pense qu'elle, de temps en temps, elle amène aussi des choses, un patrimoine finalement, qu'on connaît pas forcément, et du coup qui vient alimenter aussi un petit peu les choses, nos réflexions. Puis qui amène des questions, effectivement. Donc voilà, chère Juliette, nous arrivons au terme finalement de notre émission, de ce moment de partage là, au travers de cette émission, autour de ce beau projet, en tout cas de ce futur projet. On fera en sorte que de toute façon on fasse un focus, hein, de toute manière, donc un petit peu en amont, mais on se rappellera en temps voulu pour ça. Mais en tout cas, je pense que ça risque d'être un événement fort riche. On verra même si éventuellement, une présence sur place peut éventuellement s'imaginer. On verra en fonction. On en reparlera ensemble. Ça pourrait être assez sympathique que l'émission se retrouve à nouveau sur le terrain à Privas. Dans ce cadre-là.
On est pour. Hein.
Bon. Bien nous aussi. Voilà. Donc, à très bientôt, en tout cas, pour vivre cet événement. Hein. Cette émission a été réalisée avec la complicité de Josie Josserand, de Simon Deborne à la réalisation et à la mise en onde. Cette émission de Résonance sera rediffusée vendredi prochain de 14h à 15h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez bien sûr réécouter quand vous voulez, où vous voulez, la présente émission en la podcastant sur le site de Résonance Contemporaine, www.resonancecontemporaine.org, ou sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Très belle journée sur Radio B.